La voix de cet avocat des tigres était devenue vibrante et superbe. Les bêtes féroces le regardaient curieusement de tous les points de la galerie sombre, et le vieil ours canadien lui-même parut attentif. Clotilde, profondément étonnée, laissait aller toute son âme à cette parole qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait entendu. Elle écoutait des pieds à la tête, incapable d'une objection, configurant, comme elle pouvait, sa pensée à la pensée de ce pathétique démonstrateur. À la fin, pourtant, elle se hasarda. « Il me semble, monsieur, que vous devez être assez rarement compris, car vos paroles vont plus loin que les idées ordinaires. Les choses que vous dites paraissent venir d'un monde étranger que ne connaîtrait personne. J'ai donc beaucoup de peine à vous suivre, et, je l'avoue, le point essentiel est toujours obscur pour moi. Vous affirmez que les bêtes partagent la destinée de l'homme qui les entraîna dans sa chute. Soit. Vous ajoutez qu'étant privées de conscience et n'ayant pas à souffrir pour elles-mêmes, puisqu'elles n'ont pu désobéir, elles souffrent nécessairement à cause de nous et pour nous. Cela, je le comprends moins. Cependant, je peux encore l'admettre comme un mystère qui n'a rien de révoltant pour ma raison. J'entends bien que la douleur ne peut jamais être inutile. Mais au nom du ciel, ne doit-elle pas profiter aussi à l'être qui souffre? Le sacrifice, même involontaire, n'appelle-t-il pas une compensation? En un mot, vous voudriez savoir quelle est leur récompense ou leur salaire. Si je le savais pour vous l'apprendre, je serais Dieu, mademoiselle, car je serais alors ce que les animaux sont en eux-mêmes, et non plus seulement par rapport à l'homme. N'avez-vous pas remarqué que nous ne pouvons apercevoir les êtres ou les choses que dans leur rapport avec d'autres êtres ou d'autres choses, jamais dans leur fond et dans leur essence? Il n'y a pas sur terre un seul homme ayant le droit de prononcer, en toute assurance, qu'une forme discernable est indélébile et porte en soi le caractère de l'éternité. Nous sommes des dormants, selon la parole sainte, et le monde extérieur est dans nos rêves comme une énigme dans un miroir. Nous ne comprendrons ce gémissant univers que lorsque toutes les choses cachées nous auront été dévoilées, en accomplissement de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusque-là, il faut accepter, avec une ignorance de brebis, le spectacle universel des immolations, en se disant que si la douleur n'était pas enveloppée de mystère, elle n'aurait ni force ni beauté pour le recrutement des martyrs, et ne mériterait même pas d'être endurée par les animaux. À ce propos, j'aimerais à vous dire une singulière histoire, une bien singulière et bien triste histoire. Mais j'aperçois Gacougnol qui nous fait des signes. S'il veut m'honorer de la même attention que vous, je pense qu'il sera profitable à moi-même de la raconter. « Garçon, un madère et deux absinthes !» commanda Gacougnol, qui venait de s'installer avec Clotilde et Marche Noire dans un café proche de la grande entrée du jardin. La prompte nuit de décembre étant venue sur les animaux et les hommes, les visiteurs avaient décidé de s'asseoir dans ce lieu banal en écoutant le récit de Marche Noire. « Avant tout, dit encore le peintre, permettez que j'écrive quelques mots. Garçon, vous avez un bureau télégraphique à deux pas d'ici. Vous allez porter une dépêche immédiatement. Donnez-moi du papier. » Alors, abritant la feuille de sa main gauche, il écrivit rapidement ces simples mots. « Clotilde ne rentre pas. Gacougnol. » Ce télégramme, adressé à Madame Chapuis, disparut à l'instant même. « Maintenant, je suis tout oreille. Vous savez, Marche Noire, que vous êtes à peu près le seul parmi nos contemporains que je puisse écouter longtemps avec plaisir. Alors même que je ne vous comprends pas tout à fait, je sens votre force, et cela me suffit pour être heureux de vous entendre. » « Mon cher Gacougnol, répliqua Marche Noire, ne me flattez pas, s'il vous plaît, et ne vous flattez pas vous-même. C'est surtout pour mademoiselle que je vais parler. » Et, regardant Clotilde, « Je ne sais si le nom d'histoire convient exactement à ce que j'ose vous offrir. c'est plutôt un souvenir de voyage, une impression ancienne, demeurée très vive et très profonde, que je voudrais vous faire partager. Vous allez voir que c'est une suite à notre conversation sur les bêtes. Vous avez certainement entendu parler de la Salette, du pèlerinage de Notre-Dame de la Salette. Vous n'ignorez pas qu'il y a bientôt un demi-siècle, la Vierge Marie est apparue sur cette montagne à deux enfants pauvres. Naturellement, on a tout fait pour déshonorer, par le ridicule ou la calomnie, cet événement prodigieux. Ce n'est pas le moment de vous développer les raisons d'ordre supérieur qui me forcent à l'envisager comme la plus accablante manifestation divine depuis la transfiguration du Seigneur, que Raphaël, avec son imaginative de décorateur profane, a si peu comprise. Ceci est pour vous, Pélopidas. J'entends bien, dit l'autre, mais je ne suis pas un fanatique de Raphaël. J'admire en lui tout ce qu'on voudra, excepté l'artiste religieux. Sa seule vierge tolérable est celle de Drède, et encore c'est une rosière. Quant à sa transfiguration, voici mon très humble postulat. Depuis 350 ans qu'elle existe, un seul homme a-t-il pu jamais prier devant cette image ? À l'aspect de ces trois gymnastes en peignoir qui s'enlèvent symétriquement sur le tremplin des nuées, je déclare qu'il me serait tout à fait impossible de bafouiller la moindre raison. Savez-vous pourquoi ? Reprit Marchenoir. C'est que Raphaël, au mépris de l'Évangile, qui n'en dit pas un seul mot, a tenu à faire planer ces trois personnages lumineux, obéissant à une peinturière tradition d'extase infiniment déplacée dans la circonstance. L'ancêtre fameux de notre bondieuserie sulpicienne, qui feuilletait plus souvent les draps de sa boulangère que les pages du Livre Saint, n'a pas compris qu'il était absolument indispensable que les pieds de Jésus touchassent le sol pour que sa transfiguration fût terrestre et pour que les paroles de Simon-Pierre offrant les trois tabernacles ne fussent point une absurdité. Vous parlez de la prière. Ah, c'est en effet le vrai point. Une œuvre d'art prétendue religieux, qui n'inspire pas la prière, est aussi monstrueuse qu'une belle femme qui n'allumerait personne. Si nous n'étions pas hébétés par la consigne des traditionnelles admirations, nous n'arriverions pas à concevoir, que dis-je, nous serions épouvantés d'une Madone ou d'un Christ qui n'aurait pas le pouvoir de nous mettre à deux genoux. Or, voici le châtiment plus terrible qu'on ne pourrait le supposer. Les sublimes imagiers du Moyen-Âge demandaient souvent, au bas de leurs œuvres, très humblement, qu'on priât pour eux, espérant ainsi d'être mêlés au balbutiement des extases que leur naïve représentation excitait. Au contraire, l'âme désolée de Raphaël flotte en vain, depuis trois siècles, devant ces toiles d'immortalité. La cohue des générations qui l'admirent ne lui fera jamais d'autre aumône que l'inutile suffrage qu'il a demandé. Peut-être un jour sera-t-il permis enfin d'affirmer que la peinture dite religieuse des Renaissants n'a pas été moins funeste au christianisme que Luther même, et j'attends le poète clairvoyant qui chantera le paradis perdu de notre innocence esthétique. Mais fermons cette parenthèse et revenons à notre sujet. J'ai donc fait un jour le pèlerinage de la Salette. J'ai voulu voir cette montagne glorieuse que les pieds de la reine des prophètes ont touchée et où le Saint-Esprit a proféré, par sa bouche, le cantique le plus formidable que les hommes aient entendu depuis le Magnificat. Je suis monté vers ce gouffre de lumière, un jour d'orage, dans la pluie furieuse, dans l'effort des vents enragés, dans l'ouragan de mon espoir et le tourbillon de mes pensées, l'oreille rompue des cris du torrent. Je compte bien ne pas mourir sans avoir fixé dans quelque livre d'amour le ressouvenir surhumain de cette escalade, où j'offrais toute mon âme à Dieu dans les 100 000 mains de mon désir. J'ai beau patauger depuis 20 ans dans les immondices de Paris, je n'arrive pas à découvrir de quels amalgames de résidus sébacés, de quelles balayures excrémentielles marinées dans les plus fétides croupissoirs, purent être formés les sales enfants de bourgeois que l'événement de la Salette scandalisa et qui inventèrent je ne sais quelle turpitude pour le décrier. Mais je témoigne qu'à l'endroit même où l'esprit redoutable s'est manifesté, j'ai senti la commotion la moins douteuse, le choc le plus terrassant qui puisse écraser un homme. Sur l'honneur, j'en tressaille encore. « En effet, dit Gacougnol, si vous voulez parler, comme je le suppose, d'une caresse d'en haut, elle a dû être des 5 doigts de la main divine, car vous êtes une manière de rhinocéros qu'il n'est pas facile d'assommer. Puis, si je suis bien informé, vous devez être fièrement blasé sur les émotions ordinaires. » « Oui, je devrais l'être. Ce voyage à la Salette était peu de temps après la mort inexplicable de mon pauvre petit André. » Ici, la voix du conteur parut s'étrangler. Clotilde, qui depuis 1 heure vivait par cet inconnu dont la parole agissait sur elle avec une puissance inouïe, involontairement avança la main, comme si elle avait vu tomber un enfant. Mais ce geste fut aussitôt réprimé par un autre geste de marche noire, suivi d'un appel vibrant de sa soucoupe heurtée contre le marbre de la table. « Garçon, cria-t-il, renouvelé. » Je continue. Vous devinez que je pouvais être dans un joli état d'âme. J'étais venu là sur l'avis ancien d'un sublime prêtre, mort depuis des années, qui m'avait dit « Quand vous penserez que Dieu vous abandonne, allez vous plaindre à sa mère sur cette montagne. » « Turris Davidica, pensais-je. Il ne me fallait pas moins que les 1000 boucliers suspendus et toute l'armature des forts dont a parlé Salomon. Jamais je ne pourrais être assez cuirassé contre mon épouvantable chagrin. Et voici que déjà, sur le chemin où je venais de m'élancer, malgré la tempête et les conseils, j'étais indiciblement transporté. Que vous dirais-je? Quand je fus au sommet et que j'ai aperçu la mère assise sur une pierre et pleurant dans ses mains, auprès de cette petite fontaine qui semblait lui couler des yeux, je vins tomber au pied des barreaux et je m'épuisais de larmes et de sanglots en demandant grâce à celle qui fut nommée Omnipotentia Supplex. Combien dura cette prostration, cette inondation du cocyte? Je n'en sais rien. À mon arrivée, le crépuscule commençait à peine. Quand je me relevais, aussi faible qu'un centenaire convalescent, il faisait complètement nuit, et je pus croire que toutes mes larmes étincelaient dans le noir des cieux, car il me sembla que mes racines s'étaient retournées en haut. Ah, mes amis, que cette impression fut divine! Autour de moi, le silence humain. Nul autre bruit que celui de la fontaine miraculeuse à l'unisson de cette musique du paradis que faisaient tous les ruissellements de la montagne, et parfois aussi, dans un grand lointain, les claires sonnailles de quelques troupeaux. Je ne sais comment vous exprimer cela. J'étais comme un homme sans péché qui vient de mourir, tellement je ne souffrais plus. Je brûlais de la joie des voleurs du ciel dont le Sauveur Jésus a parlé. Un ange, sans doute, quelques séraphins très patients, avaient décroché de moi, fil à fil, tout le travail de mon désespoir. Et j'exultais dans l'ivresse de la folie sainte, en allant frapper à la porte du monastère où les voyageurs sont hébergés. Marche Noire, ce perpétuel vaincu de la vie, avait reçu le privilège ironique d'une éloquence de victorieux. Il n'était pas seulement un de ces ravisseurs évangéliques, rappelés par lui, à qui ne résistent pas les légions des cieux. Il était encore, et beaucoup plus même, un de ces doux à qui la terre fut concédée. Quelle que fût l'occasion de son discours et l'objet dont il s'occupa, on regardait généralement comme une chose difficile de résister à ce nouveau juge d'Israël qui combattait des 2 mains. Du premier coup, il vous bondissait sur le cœur. L'image continuelle, et qui jaillissait sans effort, se précisait par la voix ou par l'attitude, avec une vigueur spontanée qui déconcertait la défensive. De même que la plupart des grands orateurs, il apparaissait aussitôt en plein conflit, se grandissant de sa colère contre des ennemis invisibles, et tout le temps qu'il parlait, on voyait en lui s'agiter son âme, comme on verrait une grande infante prisonnière venir coller sa face aux vitraux d'un escurial incendié. Clotilde, extasiée, pensait au prédicateur tout-puissant qu'il aurait pu devenir, et Pélopidas, confondu, le contemplait ainsi qu'une fresque très ancienne, à la fois sanguinolente et fuligineuse, où quelques siècles très défunts auraient revécu prodigieusement ses adorations ou ses fureurs. Le narrateur s'était arrêté un moment. Le digne peintre en profita pour parler un peu, dans l'espérance de cacher son trouble. « Ne pensez-vous pas, Marche Noire, que pour éprouver de telles émotions religieuses, à La Salette ou ailleurs, il faudrait précisément se trouver dans la situation d'esprit qui fut la vôtre ce jour-là, et avoir passé par les mêmes déchirements. Mon ami, j'attendais presque cette objection. Voici ma réponse qui sera claire. Nous sommes tous des misérables et des dévastés, mais peu d'hommes sont capables de regarder leur abîme. Ah oui, j'ai traversé de sacrées douleurs, articula-t-il d'une voix profonde qui leur secoua les entrailles à tous deux. J'ai connu le vrai désespoir, et je me suis laissé tomber dans les mains de ce pétrisseur de bronze. Mais ne me faites pas l'honneur de me croire si étonnant. Mon cas ne paraît exceptionnel que parce qu'il m'a été donné de sentir un peu mieux qu'un autre l'indicible désolation de l'amour. Vous qui parlez, vous ne savez pas votre propre enfer. Il faut être ou avoir été un dévot pour bien connaître son dénuement, et pour dénombrer la silencieuse cavalerie de démons que chacun de nous porte en soi. Mais en attendant que vous arrive cette vision d'épouvante, gardez-vous de croire que le secours puisse être indifféremment obtenu dans tel ou tel lieu. À La Salette ou ailleurs, avez-vous dit? Eh bien, moi, je vous affirme que cet endroit est particulièrement fréquenté par les tonnerres de l'Apocalypse, et qu'il n'y a pas d'autre point du globe où puissent aller ceux qu'intéresse le dénouement à venir de la rédemption. C'est à La Salette et non pas ailleurs que peuvent être fortifiés ceux qui savent que tout n'est pas accompli et que la grand-messe du Consolateur n'a pas commencé. Encore une fois, ce n'est pas ici l'occasion d'entrer dans ces insolites considérations. Écoutez mon anecdote. Je crois inutile de vous dire, Gacougnol, que je ne m'attendais pas à trouver dans cette auberge que l'industrie pieuse a bâti à quelques pas du lieu de l'apparition de puissantes ressources pour mon enthousiasme. Je suis de ceux dont la voix n'a point d'écho, surtout parmi les raisonnables chrétiens que le surnaturel incommode. Le pèlerinage de La Salette est desservi par des pratiques missionnaires qui ne s'égarent pas dans les sentiers du sublime, je vous en réponds. Il trempe la soupe des voyageurs pour le ciel et loge à pied la vertu sans extravagance. Les exercices pieux ou les labiales exhortations, encadrées avec sagesse, ne nuisent jamais au fonctionnement latéral de la table d'hôte et du perchoir. La computation des ordinaires et des suppliments fusionne avec les cantiques et les litanies. Sur cette montagne, aussi effrayante que l'Horeb, où Notre-Dame des Glaives est apparue dans le buisson flamboyant de ses douleurs. Il est effarant de songer que cette fabuleuse congrégation ne sait absolument pas ce qui s'est passé, et que le plus grand effort de ces vachers du sacerdoce est probablement de supposer que la puissance divine s'est manifestée pour qu'il existasse. Il faut entendre leurs explications du miracle. Cet identique boniment qui se débite chaque jour près de la fontaine à l'heure de la digestion. Me voici donc à table, à cette table d'hôte que je viens de nommer, en compagnie d'une vingtaine de pèlerins quelconques. Les pèlerines sont accueillies dans l'aile opposée du bâtiment, l'un et l'autre sexe étant ainsi répartis de chaque côté du sanctuaire. Deux ou trois prêtres, peu ravagés par les travaux apostoliques, puis je ne sais quel visage, quel ventre, quelle main. Tout cela mangeant et buvant, sans visible souci de quoi que ce soit. Enfin, la table est vulgaire de n'importe quelle hôtellerie provinciale. Il me sembla même qu'on gueulait un peu. J'avais à peine franchi le seuil que déjà j'entendais nommer Marseille. Cette mention géographique émanait d'un très gros homme barbu, à la face congestionnée, évidemment résolu à ne pas laisser ignorer une origine que, d'ailleurs, son crapuleux accent dénonçait. Mais j'avais de si sonores clairons dans le cœur que je l'entendis à peine, et je ne songeais même pas à me demander ce que ces gens étaient venus faire en un tel lieu. Je mangeais automatiquement ce qu'on me servait, les convives étant séparés de moi comme par l'embrun d'un océan. Il est vrai que mon équipage de piétons ruisselants et couverts ne pouvait agir puissamment sur le clavier sympathique de ces dîneurs. Aucun d'eux ne m'avait parlé, et le bavardage ne s'était pas ralenti une seconde à mon arrivée, le goujatisme contemporain ne comportant pas la déférence pour l'étranger. Je pensais précisément à la troisième personne divine, lorsqu'une main me toucha l'épaule. M'étant retourné, je vis un personnage à figure triste, vêtu comme un campagnard, qui me dit avec douceur « Monsieur, vos vêtements sont mouillés et vous devez avoir très froid. Voulez-vous prendre ma place qui est moins loin du poêle ? Je vous en prie. » Il y avait une prière si vraie dans son expression, ses yeux me disaient si bien qu'il se serait cru coupable de tout coryza dont j'aurais pu être victime, que j'acceptais sur le champ sa place avec la même simplicité qu'il me l'offrait. Cet échange me valut un peu d'attention. L'obèse Marseillais, qui était désormais en face de moi, daigna me regarder de ses gros yeux en faïence, au bord desquels un liquide avait été mis par la volupté d'engloutir. « Eh, là-bas, l'homme aux bêtes » beugla-t-il, s'adressant à mon ami inconnu. « C'est comme ça que vous nous brûlez la politesse ? Vrai, c'est pas gentil de votre part. » J'eus exactement la sensation d'une porte de latrine qu'on aurait ouverte. Le ton de ce mercantil avait quelque chose de si nauséeux, et sa grossièreté cossue paraissait tellement assise dans la graisse d'une prospérité de Véra que, du premier coup, la suffocation commença. Les mésanges bleus du ravissement s'envolèrent, et je fus aussitôt replongé dans l'ignoble réalité, dans la très puante et très maudissable réalité. L'interpellé ne répondit pas. Se penchant alors vers son voisin, qui était une des soutanes entrevues à mon arrivée, « Monsieur l'abbé, souffla le gros homme, c'est tout de même vexant qu'il ait censé de place, ça commençait à devenir drôle. » Puis, élevant de nouveau sa voix odieuse, « Dites donc, mon garçon, « vous ne savez peut-être pas que je suis de Marseille, moi. Eh bien, je vous l'apprends. Si vous aviez eu le bonheur de fréquenter cette métropole, vous auriez appris que toute question honnête vaut une réponse. Je vous ai demandé pourquoi vous nous avez quittés comme un lavement. Monsieur qui vous remplace a l'air très aimable, je ne dis pas non. Mais nous étions habitués à votre binette, et ça nous aime de ne plus la voir. » Toute la table, déterminé à se divertir bravement aux dépens d'un pauvre diable, faisait silence. « Monsieur, répondit enfin ce dernier, je suis fâché de vous avoir privé de ma binette, pour me servir de votre expression. Mais le pèlerin qui m'a remplacé avait froid. Comme j'ai eu le temps de me réchauffer, depuis que vous me faites l'honneur de vous amuser de moi, j'ai cru qu'il était de mon devoir de lui céder ma place. » Cela fut dit sans ironie et sans amertume, d'une manière extraordinairement humble, dans une douceur d'accent presque bizarre, dont je ne saurais vous traduire les faits. Si je vous priais d'imaginer, par exemple, un enfant mourant que vous entendriez parler à travers un mur, ce serait absurde, et pourtant je ne trouve pas mieux. Bref, j'eus l'intuition de quelque chose de très rare, et je devins plus attentif. Je vous épargne les gargouillades facétieuses de chemisier pour ecclésiastique, dont l'individu placé devant moi ne négligea pas de nous saturer, à l'extrême satisfaction des mandibules sacerdotales ou laïques. Voici la cause de cette allégresse. Le pauvre être, qui servait de plastron à ces brutes, était une espèce de végétarien apostolique, perpétuellement travaillé du besoin d'expliquer son abstinence. Sous quelque prétexte que ce fût, mademoiselle, il n'admettait pas qu'on tuât les bêtes, et, par conséquent, il s'interdisait de manger leur chair, ne voulant pas se rendre complice de leur massacre. Il le disait à qui voulait l'entendre, sans que nulle moquerie fût capable de le retenir, et on sentait qu'il aurait donné sa propre vie pour cette idée. À la fin, l'un des prêtres, un long soutanier qui paraissait avoir enseigné très spécialement la raison dans quelques prytanées de haute sagesse, prit la parole en ces termes. « Je vous demande comme une faveur de répondre à une simple question que je vais vous poser. Vous portez des souliers de cuir, un chapeau de feutre, des bretelles peut-être. Vous vous servez en ce moment d'un couteau dont le manche est en os. Comment pouvez-vous concilier de tels abus avec les sentiments fraternels que vous venez d'exprimer? Songez-vous qu'il a fallu égorger d'innocents quadrupèdes pour que ce faste criminel vous fût accordé? » Je n'essaierai pas de vous dépeindre l'enthousiasme de l'auditoire. Ce fut une clameur générale, un délire. On applaudissait, on trépinait, on aboyait, on imitait des cris d'animaux. Juste le succès d'un cabotin de café-concert. Lorsqu'un peu de calme se fut rétabli dans la fourrière, la première parole articulée qui se fit entendre sortait du groin désopilant et fariboleur de mon vis-à-vis. Il gueulait ceci. « Ah, pour le coup, mon bonhomme, tu as ton compte. » Il en était au tutoiement. « Il n'y a pas à dire, mon bel ami. Cette fois, c'est un théologien qui t'interroge. Un ministre des autels, Mildiou. Qu'est-ce que tu vas lui répondre, Viedaz ?» La réponse fut telle qu'un silence général succéda. À l'exception du dernier chenapan qui avait parlé, tous les fronts se penchèrent sur les assiettes, visiblement inquiets d'une plaisanterie qui allait si loin. J'avançai la tête pour voir le souffre-douleur. Il pleurait, le visage dans ses deux mains. « Vous savez, Gacougnol, si c'est dans ma nature de supporter que les faibles soient opprimés devant moi. » Je me levai donc au milieu de la stupeur, et faisant le tour de la table, je vins frapper du plat de la main l'épaule du mastodonte. La claque, je crois, fut assez retentissante et faillit lui faire perdre l'équilibre. « Debout, dis-je. » Il se retourna d'un bloc en grognant comme un sanglier. Mais s'il eut quelque velléité d'indignation, je vous jure qu'aussitôt après m'avoir regardé, il perdit tout besoin d'évacuer ce sentiment généreux. Je le contraignis à se lever, et l'amenant jusqu'à sa victime, qui pleurait toujours et qui n'avait pas relevé la tête, je lui dis encore « Vous avez insulté bassement et ignoblement un chrétien qui ne vous faisait aucun mal. Vous allez, n'est-ce pas, lui demander pardon ?» Ce sera peut-être une leçon profitable pour quelques-uns des lâches qui nous écoutent. Comme il faisait mine de protester, je lui replantai la main dans la nuque avec une telle furie d'autorité qu'il tomba sur ses genoux, aux pieds du bonhomme, glacé de stupéfaction. Maintenant, ajoutai-je, vous allez, à haute et distincte voix, vous humilier devant celui dont vous êtes l'offenseur. Sinon, je jure Dieu, que je vous arracherai la peau avant que nous sortions de cette écurie. Quant à vous, monsieur, laissez-moi faire. J'accomplis un acte de justice, non pour vous, mais pour l'honneur de Marie, qu'on outrage un peu trop ici. » J'expérimentai une fois de plus, en cette occasion, l'étonnant pouvoir d'un seul homme qui déploie son âme et l'incomparable couardise des blagueurs. Celui-là demanda pardon à genoux comme je l'avais exigé, ajoutant, pour sauver au moins une plume de sa dignité de plaisant cafard, qu'il n'était pas un cosaque et qu'il n'avait pas eu l'intention de faire souffrir. L'autre le releva en le serrant dans ses bras, et j'allais me coucher. Telle est la première partie de mon aventure, qui sera, si vous le permettez, un diptyque.